Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store.
C'est fini là.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est toujours une joie hein, chaque lundi d'être avec vous de 19h à 20h30. Et justement, ce soir encore plus parce qu'on reçoit celui qui avait été le premier invité hein, de Mon Paris Sport. C'était en février 2022. C'est Eman Baslouini, je l'ai bien dit cette fois-ci. Bonsoir Eman, ça va, pleine forme?
Oui, ça va et toi Philippe? Ouais, merci pour l'invitation. Hein,
on va dire donc maire adjoint, donc chargé des sports et de la vie associative.
Et de la jeunesse, dans
le 13e. Tâche passionnante, exaltante depuis le début.
Ah oui.
Et puis
oui,
surtout avec ce qu'on a vécu là.
Exactement. Hein, on va en parler, je pense.
Voilà, donc on va faire un petit peu le bilan de cet après-JO, déjà pour l'arrondissement et puis aussi pour Paris, et puis parler un peu de cette rentrée un petit peu atypique et particulière hein, suite donc à ces Jeux. Quelqu'un qui fait sa rentrée chez nous, c'est notre ami Benoît.
Coucou tout le monde.
Benoît, ça va?
Bonsoir, ça va super.
Ouais, MMA.
Bah écoute, très très content de reprendre cette chronique MMA avec toi.
Alors merci, c'est le deuxième lundi que tu fais régulièrement.
C'est ça.
Bon là, comme on n'était pas là, on t'a décalé. Hein.
Exactement. Voilà. Et ça tombe au bon moment d'ailleurs.
Ton deuxième lundi. Et bah, ça tombe très bien. Et puis on la salue, elle est là aussi tous les lundis pratiquement. C'est Vanessa, elle nous fera un journal des sports en même temps donc ce lundi. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir à tous, ouais, bonsoir Philippe.
On va saluer Alexandre qui a pris un petit peu de repos.
Oui, hein,
mais qui reviendra donc avec nous la semaine prochaine. Bon alors Eman, ce bel été olympique et paralympique, ça a été facile de retrouver le quotidien? Parce
non.
Que c'est vrai que nous, on a eu un petit coup de mal à
revenir aux choses sérieuses, si on peut dire ça comme ça en tout cas. Mais oui, c'était un été vraiment magnifique, une belle effervescence en tout cas et que de beaux moments partagés entre les uns et les autres, c'est surtout ça que je garde en tête.
Oui, alors, on en avait parlé, je crois, au mois de janvier, hein, qu'on avait donc présenté l'année 2024. Nous, on était très optimistes, mais il y avait un tas de bashing à l'époque, et puis finalement, ça s'est très, très, très bien passé, peut-être encore mieux qu'on ne le pensait.
Oui, je pense que c'était encore mieux qu'on ne le pensait, ne serait-ce que juste, par exemple, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques aussi, que j'ai trouvé très, très belle. Et tout était magnifique, tout était parfait. Même quand le temps n'était pas avec nous, c'était parfait aussi. Ça ajoutait quelque chose. Enfin voilà, les sites étaient magnifiques, l'ambiance était magnifique, que ce soit sur les fan zones, que ce soit dans la rue. Enfin voilà, Paris était une fête. Et je pense que tout le monde a ressenti cette effervescence, que ce soit les gens qui soient allés ou non voir des épreuves, tout le monde a pu en profiter en tout cas. Et c'est surtout ça le plus important.
Et puis on l'a maintes fois répété, les absents, bah, ils ont eu tort. Tant pis pour eux.
Eh ben oui, tant pis pour eux, tant pis pour eux.
Ah, oui. Alors le 13e a été quand même avant-gardiste parce qu'ils ont lancé cette cérémonie qui est partie d'Austerlitz.
Ben oui, ça a démarré chez nous, donc on en est très fiers. Ouais. Et on garde tous cette belle image en tête du pont d'Austerlitz où il y a eu ce fameux lancement avec le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Avec ces explosions en l'air, c'était dans la une des journaux. Enfin voilà, le fait que ce soit chez nous, ça nous a fait extrêmement plaisir. Et puis ce décor magnifique ensuite tout le long, cette mise à l'honneur de ce qu'est la France aussi, sa diversité, son talent, sa jeunesse. Enfin voilà, c'était ça que j'ai retenu en tout cas de cette belle cérémonie. Et puis de beaux messages aussi, avec un beau vivre ensemble à la fin. Et Céline Dion aussi, hein, qui était évidemment parfaite, hein, comme toujours. Mais en tout cas, c'est... Et j'ai été très content de voir Zidane aussi apparaître, parce que, au tout début et à la fin, avec Jamel Debbouze aussi. C'était magnifique.
Oui. Alors, auparavant, il y a eu quand même la flamme. Et ça aussi, c'était une belle fête. Hein, parce que finalement, les Jeux ont commencé le 8 mai à Marseille.
Voilà.
Il y a eu 6 cérémonies, puisqu'il y a eu le grand défilé aussi du mois de septembre, de la mi-septembre, la grande parade. Mais cette flamme aussi, là, tous les quartiers du 13e et tous les quartiers de Paris principaux ont été mis à l'honneur.
Bah exactement, un parcours de 12 000 km pour le relais de la flamme olympique. Donc la fête a démarré tôt. Nous-mêmes, dans le 13e, on a eu plusieurs étapes, hein, à la Butte aux Cailles, au niveau du musée à ciel ouvert du street art aussi, parce que nous, on voulait mettre en avant aussi ce qu'était le 13e. Donc le 13e quartier latin et le 13e urbain à travers le street art. Et donc, enfin voilà, c'est passé aussi Avenue de France, en haut de la Tour du Haut. On avait de magnifiques animations qui étaient organisées. Donc, on a fait en sorte qu'il y ait une démonstration de danse en l'air, en voltige, sur une des fresques, sur un des pignons d'immeubles. Et à la Butte aux Cailles aussi, un tas d'animations plus sobres, mais sympathiques aussi. Il y avait de la pétanque, il y avait des jeux pour enfants, tout ça.
Donc, et on sentait que déjà, de par la ferveur populaire de la flamme, que bah, le reste allait suivre, quoi.
Oui, totalement, totalement. On sentait que c'était vraiment le démarrage de quelque chose de super. On ne savait pas encore quoi exactement et comment ça allait prendre forme, l'intensité aussi. Et je pense que ça a dépassé totalement nos aspirations. C'était d'un niveau incroyable, quoi. Incroyable. Et puis, l'autre fierté aussi, c'est que notre porteuse de la flamme, celle qu'on avait choisie, nous, à la mairie du 13e, a fait son trajet chez nous. Je voudrais, si tu me permets, parler une minute d'elle, qui s'appelle Claudine Vigouroux, qui est une animatrice dans nos écoles, dans le 13e, et qui est aussi championne de double dutch. C'est elle qui, donc le double dutch, pour ceux qui ne savent pas, c'est un sport avec une corde à sauter. Donc on fait tout un tas de figures avec des cordes à sauter, et donc il y a des compétitions qui se déroulent là-dedans. Exactement. Et donc c'est un sport qui a été créé aux États-Unis, qui a été importé ici. Elle a son club dans le 13e aussi. Elle est très engagée.
On essaiera d'inviter un jour.
Filerai ses contacts sans problème.
Quel a été le rôle pendant ces Jeux du 13e? Bon, ça a été beaucoup de travail.
Oui, ça a été beaucoup de travail d'information, de travail de communication et d'organisation aussi, que ce soit en lien avec la police nationale sur les sujets de sécurité, mais tout comme sur les commerçants, sur les bailleurs sociaux, les immeubles, enfin tout en fait, parce qu'évidemment il y a eu des impacts, donc il fallait les accompagner et nous on était là pour accompagner ces impacts-là, faire en sorte que ce soit des impacts moindres et que ce soit doux et pas brutal, ce qui a été le cas, donc on en est particulièrement heureux. Et puis on avait notre fan zone aussi au parc de Choisy, donc il y avait pendant tout l'été, à partir du 26 juillet jusqu'au 8 août, non-stop, même pendant l'entre-deux-jeux, ça ne s'arrêtait pas. Il y avait plein d'animations tous les jours avec un grand écran, des lieux de restauration. Donc, on a pu compter sur le maillage associatif sportif du 13e pour pouvoir mener à bien ces animations. Il y avait des spectacles aussi. C'était vraiment, vraiment super.
Oui, c'est un travail qui a commencé 3 ans avant. À peu près.
Oui, tout cas pour la candidature de Paris, c'est un travail de 10 ans.
Oui, oui, 2017.
Donc on a obtenu ces jeux avec Tony Estanguet et la maire de Paris. Et ensuite, ça a été. On est rentré dans le dur, il y a 2-3 ans, effectivement. Donc c'était. On était dans l'idéation d'abord de comment on pourrait. Qu'est-ce que l'on pourrait faire au niveau local, parce qu'on a fait en sorte qu'il y ait une fan zone dans chaque arrondissement aussi. D'ailleurs, le nôtre a été le deuxième le plus fréquenté à Paris, avec plus de 185 000 visiteurs, ce qui est bien au-delà du nombre d'habitants du 13e, qui est de 180 000. Et on en est particulièrement fiers. Donc, c'était une réussite. On ne retient que du bon.
Et alors, Philippe, j'ai pu tester, c'était très bien. Il y avait aussi l'expo photo de Sarah Beatball sur les violences sexuelles et sportives dans le sport, sur les grilles du parc de Choisy. Donc, je confirme, très bonne initiative sur tous les plans.
Oui, et on avait aussi, avec ces jeux-là, il y a eu un héritage. L'héritage social, mais aussi, par exemple, développer le sport féminin. On a des dispositifs qui ont été créés spécifiquement là-dessus et qui vont perdurer après les jeux aussi, qui perdurent. Et on a aussi l'héritage physique, c'est-à-dire que dans le 13e, le 13e est très concerné, c'est-à-dire qu'on a quasiment rénové l'ensemble des playgrounds de basketball grâce en partie aux jeux et à ses partenaires, mais également... le grand bassin d'Austerlitz qui est situé à côté de la gare d'Austerlitz, qui permet justement de filtrer et de retenir les eaux usées et de ne pas mélanger les eaux usées avec l'eau de la Seine en cas de très forte pluie. Ce qui permet d'ailleurs, du coup, la baignade dans la Seine. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui a permis, du coup, de faire en sorte que les épreuves de, certaines épreuves de natation oui, puissent oui, se dérouler oui, dans
oui,
la Seine.
Oui, oui, parce qu'on sait qu'on avait des grosses craintes et puis finalement... Tout s'est bien passé.
Tout s'est très bien passé. Il y a eu un petit décalage sur une épreuve d'un ou deux jours maximum. Mais au final, ça s'est extrêmement bien passé. Enfin, voilà, les gens étaient contents. Quoi.
Ouais. Alors, vous avez tous travaillé en harmonie, tous les arrondissements.
Oui, on se filait quelques idées. Après, bon, on était très vite dans le vif du sujet. Donc, chacun apportait ses contributions, ses idées au niveau parisien et après on le traitait surtout au niveau local. Donc on travaillait avec chacun avec nos services et donc on se faisait, on se donnait des petits conseils. Il y avait même bien au-delà des clivages politiques.
Oui, parce que c'est ça, il peut y avoir des clivages politiques et puis des fois on peut avoir tendance à voir tirer un petit peu la couverture à soi dans tel arrondissement. Quoi.
Oui, mais franchement là, on n'avait pas du tout ça. Même, j'ai envie de dire, de manière générale, quand on travaille dans le sport...
Vive le sport, oui, c'est ça.
Vive le sport, parce qu'il n'y a pas de clivage à ce moment-là et le sport fait... quasi l'unanimité. Après, bon, oui, il y en a toujours qui essayent de tirer la couverture vers soi, mais c'est le jeu politique.
Ouais, ouais. Alors, il y a eu aussi des embauches pour l'arrondissement pendant cette période.
Alors oui, il y a eu des embauches, donc notamment sur l'aspect sécurité. Donc, on a eu un grand nombre de personnes qui ont été formées sur l'aspect sécurité, parce que c'était un enjeu très important quand même de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis, on a pu recruter aussi un grand nombre de volontaires, de bénévoles, que je remercie une nouvelle fois, parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire en sorte que le parc de Choisy soit animé et tenu tous les jours.
Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils aiguillaient les gens dans les rues ?
Ils informaient, ils aiguillaient les gens, ils animaient aussi. Ils proposaient, par exemple, du mini-golf pour les gamins. Ils dansaient avec les gens. Ils avaient des photocalls. Ils se prenaient en photo ou ils prenaient en photo les gens. Ils aiguillaient. Et c'était vraiment... il y avait une bienveillance qui régnait et c'était vraiment très agréable. Donc, merci encore à eux.
Oui. Benoît, toi, tu as suivi les Jeux ?
Ou moi, j'ai
ou t'as
pas
fait
mal
partie
suivi
de ceux qui ont parti ?
Non. J'ai plutôt fait partie de ceux qui suivaient principalement à la télé, pour être honnête. Et je suis assez content.
T'as pas eu envie d'aller dans l'ambiance, dans les fan zones de te...
En fait, je suis allé à Paris et j'étais agréablement surpris. En fait, c'était clairement une autre ville. Il y avait énormément de touristes. Oui. Donc, du coup, c'était... Oui. Sans mauvais jeu de mots, c'était un peu Paris sans les touristes. Paris sans les Parisiens. Et du coup, c'était un peu une autre ambiance dans certains quartiers. Mais globalement, j'ai beaucoup apprécié les Jeux. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que là, j'ai une nièce qui a 8-9 ans. Mm-hmm. Et après avoir regardé les Jeux Olympiques, la première chose qu'elle a demandé, c'est de s'inscrire au sport. En fait. Elle a actuellement fait de l'athlétisme. Mm-hmm. Donc, j'étais plutôt content du fait que les Jeux Olympiques ont contribué à la motiver à faire du sport, sachant qu'on sait que il y a toute cette question sur le sport féminin. Et là, je l'ai vu en direct, ça contribue.
C'est bien que ça commence dès le plus jeune âge.
Alors, ceux qui étaient très réticents, comment il a fallu les convaincre ?
Je
suppose qu'il y en a eu, départ.
Oui, évidemment, des sceptiques, plein. Mais je pense qu'ils ont pris la décision par eux-mêmes. Donc, soit ils sont partis, soit ils n'ont pas voulu s'y intéresser. Après, libre à chacun.
Soit ils ont changé d'avis.
Voilà, ou soit ils ont changé d'avis aussi. Il y en a eu. D'ailleurs, ce qui était assez drôle, pour ne rien vous cacher, c'est un peu dans le off, quoi. Mais... au début des JO, au début des JO, tout s'est très bien passé évidemment, mais on sentait, c'est un peu comme ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des Parisiens qui sont partis en vacances, ça c'est sûr, mais ils ne sont pas tous partis. Quand même, un certain nombre est resté. Et d'ailleurs, les centres de loisirs aussi, on les a amenés voir des épreuves, tout ça, et profiter des fan zones aussi, mais aussi à travers les clubs, les associations, tout ça. Mais il y a des personnes un peu aigries, on va dire, qui sont parties et qui... ils avaient le seum, quoi, d'avoir raté quelque chose. Ils ont vu la cérémonie d'ouverture et ils s'en sont mordus les doigts. Et donc, on a vu les mêmes personnes du coup revenir pendant la période des Paralympiques.
Ouais, c'est ça,
c'est vrai. Et c'est là où on a commencé à avoir des petites remarques. Ah oui, mais pourquoi vous laissez pas l'écran allumé sans arrêt? On veut voir les épreuves, nanana. On s'en fiche de cette animation là. Voilà, bon, c'était gentillet, mais ça fait partie du jeu aussi. Il y a rien de bien méchant. L'essentiel, c'est que vraiment la très large majorité des gens ont passé un bon moment, ont passé un bel été et ont pu en profiter. Et comme je le disais, ils ont pu en profiter, qu'ils soient allés voir les épreuves ou pas. Ouais. C'est surtout ça.
Oui. Et puis, bon, l'image de Paris, qui, à tort, peut-être parfois un peu controversée, là, c'était la plus belle ville du monde, quoi.
C'était... Ah, c'est la plus belle ville
oui,
du monde.
Oui, non, mais...
c'est vrai. C'est la plus belle ville du monde. Et on est dans le plus bel arrondissement de Paris, oui, le 13e.
Arrondissement très sportif d'ailleurs. Hein, puisque,
très sportif.
Il y a beaucoup de belles institutions sportives dans le 13e. Hein.
Bah, ouais, on a un peu le comité national olympique.
Ah, c'est pas rien, hein.
Oui, on avait le musée du sport, bon, malheureusement, qui est descendu à Nice, mais on a le ministère des Sports, qui est dans le 13e aussi, Avenue de France.
Oui, oui.
Enfin voilà, oui, on a de belles choses, ouais, quand même. Et puis on a de grands clubs
oui, bien sûr,
et de
parler.
Beaux équipements.
Ouais. Bon, il y a eu quand même beaucoup de nouveaux arrivants. Est-ce qu'on peut gérer ces nouveaux pratiquants et pratiquantes? Parce que ça, c'est l'éternel problème. Hein.
Eh ben, ça a toujours été le problème.
Là encore
de toute
plus,
façon,
peut-être avec
là
Paris,
encore
hein.
plus, parce ouais. que bah, du coup, il y a plein d'associations qui malheureusement se voient obligées de refuser certaines inscriptions ou adhésions. Par manque de créneaux, hein, j'assume, hein, mais ça va, on arrive à gérer le truc quand même.
Oui, quand
c'est-à-dire
même.
Que c'est un jeu de chaises musicales, on va dire, aujourd'hui, les créneaux dans le 13e, dans les équipements sportifs. C'est-à-dire que pour avoir un gymnase, ils sont blindés à craquer, hein, tous, et on essaye de garder un certain équilibre. Mais on arrive quand même à jongler entre les différentes associations et à faire en sorte d'avoir des ententes avec les associations, parce qu'on leur impose rien, bien évidemment, on fait en fonction d'elles aussi. Mais on arrive plus ou moins à faire en sorte que tout le monde puisse faire du sport avec ses moyens, qu'on en ait ou pas. C'est surtout ça. Et donc, chacun y trouve son compte. Hein. Et puis, je le rappelle, il y a toujours les dispositifs gratuits de la ville de Paris aussi qui permettent de faire du sport pendant les vacances, le week-end, pour les femmes spécifiquement, pour les personnes en situation de handicap. Voilà.
Je crois que Vanessa s'est initiée au tennis.
Moi, je me suis en fait initiée au tennis. Je vais vous raconter la petite anecdote. J'étais vers Olympiade, sur la passerelle, là, pas très loin du Lidl, et puis il y a un stade juste à côté.
Le stade.
Exactement. Et il y avait une affiche sur tennis au féminin.
Ouais.
Le tennis, je regardais comme ça un petit peu, mais j'avais jamais eu spécifiquement l'envie de le pratiquer, ou à part en vacances de temps en temps. Et finalement, j'ai été donc m'inscrire au tennis au féminin, qui sont en plus, c'est en plus gratuit donc. Ouais. Et j'ai vraiment pris goût et c'est comme ça que je me suis mise à pratiquer le tennis.
Bah voilà.
Donc très bon dispositif, je confirme, hein, avec des super coachs. Voilà.
Oui. Bah, merci professeur. Aux agents de la ville de Paris.
Voilà.
Merci aux éducateurs et agents de la ville de Paris.
Je les remercie Stéphane, notamment Farid. Je leur fais un petit coucou s'ils nous écoutent et voilà.
Alors, est-ce que la solution, c'est pas aussi peut-être un partenariat avec d'autres arrondissements, des fois?
C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire, y a des sections sportives qui peuvent peut-être aller, si c'est full dans le 13e, dire, allez, on va aller accueillir dans le 5e ou dans le 14e, par exemple.
Alors, généralement, oui, ça peut le faire, mais généralement, ce sont les petits arrondissements,
en tout cas,
les arrondissements qui ont moins d'équipements et qui ont moins d'habitants, qui essayent de faire ça avec les gros arrondissements comme le 13e, parce que le 13e, c'est l'arrondissement qui a le plus d'équipements sportifs, d'ailleurs, à Paris. Nous, on joue le jeu dans le 13e. Après, ce n'est pas toujours le cas ailleurs, hein, mais nous, on joue le jeu. Donc, on propose d'accueillir, évidemment, des adhésions ou des habitants qui viennent des autres arrondissements voisins. Enfin, on n'est pas sectaire.
Oui,
l'essentiel, c'est de faire du sport à Paris. Quoi, hein, donc,
oui, non, c'est ça. Après, des fois, ça peut être la solution. Hein.
Oui, bien sûr. Il y a une mutualisation qui est faite. Et puis, il y a des associations qui s'implantent dans divers arrondissements différents. Donc, les gens font en fonction de là où ils habitent aussi. Hein, donc, je vais vous donner l'exemple du badminton. On a une association de badminton qui a des créneaux dans le 11e, dans le centre de Paris et dans le 13e et dans le 14e aussi. Donc les habitants de ces quartiers-là peuvent s'y retrouver et vont là où c'est le plus proche.
Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr.
Parce que la question de la proximité du sport est aussi très importante.
Ouais, oui, je confirme.
Oui.
Bah, j'allais y revenir. Moi, c'est que moi, je sais que pendant longtemps, ça a été une problématique. Je cherchais des sports et souvent, ils étaient très loin de moi. Mmh. Et je sais qu'aujourd'hui, là, j'ai la chance d'avoir quand même pas mal de sports à proximité. Je sais que quand on est jeune, ça joue beaucoup dans le mental de se dire « Ah, ok, mon club, il n'est pas très loin. Je sais que je ne vais pas rentrer tard chez moi. J'aurai le temps pour me reposer pour le lendemain, aller à l'école, etc. » Donc, c'est vrai qu'il y a toujours ce besoin d'avoir une certaine proximité. Et plus il y a d'associations qui proposent des sports variés dans un arrondissement, plus ça facilite les choses.
Mmh. Oui, bien sûr. Alors, il y a eu, on y reviendra hein, dans cette rentrée de toutes les associations sportives, mais il y a eu deux grandes actions et parmi les grandes actions, on y a participé avec donc à l'hôtel de ville là, pour aider des jeunes à devenir commentateurs.
Mais oui, oui, dans la QJ, effectivement, voilà, bien sûr. Ouais. Bah, c'était, j'ai salué d'ailleurs sur les réseaux sociaux cette action parce que j'ai trouvé ça super que la radio bien Montpellier sûr. FM aille à QJ pour faire parler les jeunes et les écouter aussi et les initier à ce beau métier qui est la radio. Et donc oui, je trouve ça super le fait de commenter aussi sport. Ça permet d'évacuer, de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. Moi, je trouve que c'est un très très bel outil et donc j'ai eu que des bons retours en tout cas de mon côté là-dessus, donc bravo. Mmh. Et
alors,
merci.
Oui, ce fameux héritage, alors est-ce que ça va perdurer? Est-ce que, bah, comme tout, on en gardera une partie?
Ah bah oui, on le garde cet héritage, on le garde et on va le développer encore. Oui, l'idée est d'aller encore plus loin.
C'est simple, il y a eu un succès énorme pour les Paralympiques.
Ouais.
Est-ce qu'on peut accueillir tout le monde pour les structures? Le problème est là.
De toute façon, maintenant, les règles de construction, on a des normes. Et donc, on ne peut pas construire un bâtiment ou réaliser un bâtiment sans le mettre aux normes des personnes à mobilité réduite. Donc ça, déjà, il y a une très belle avancée là-dessus. Ensuite, l'héritage des Jeux aussi, c'est 100% des stations de bus accessibles aux personnes à mobilité réduite.
C'est important. Ouais.
Les nouvelles stations du prolongement de la ligne 14, toute la ligne 14 d'ailleurs, est accessible pour les personnes à mobilité réduite, mais pas que. C'est-à-dire ceux qui ont des déficiences visuelles aussi, parce qu'il y a d'autres handicaps, hein, évidemment. Et donc l'adjointe à la maire de Paris, Lamia Elarache, qui est en charge de l'urbanisme désormais et des questions du handicap, travaille là-dessus sur un plan justement pour ces prochaines années, pour continuer et poursuivre ces efforts-là. Alors, on a entendu la région Île-de-France parler du 100%, du métro 100% accessible. Alors, why not, hein, il faut viser cet objectif-là, bien évidemment, mais il faut le faire aussi avec des moyens qui existent. Donc, il faut les trouver, les moyens aussi. Mais c'est un travail très sérieux à faire et sur lequel on est déjà acharné dessus pour la suite. Après, pour la question du handicap, c'est pas uniquement l'accessibilité au transport, ce genre de choses. Oui. C'est aussi l'accessibilité tout court aux services publics. Les services publics, c'est la mairie, c'est aller se soigner, c'est ce genre de choses. Donc ça, c'est accessible pour les personnes à mobilité réduite. Vous allez à la mairie, vous avez un ascenseur.
C'est le quotidien de tous les jours. Hein.
Exactement. Hey. Exactement. Mmh. Et dernière chose aussi, c'est que il y a un héritage social sur la question du handicap, c'est-à-dire que nos clubs se sont très fortement engagés ces dernières années et continuent à le faire sur la question du handicap, que ce soit le handicap moteur tout comme mental, psychique, et donc elles se forment de plus en plus pour accueillir ce public-là. Dans le 13e, on peut citer des exemples.
Ça veut
dire
que tous les clubs dans le 13e aujourd'hui peuvent recevoir une personne handicapée.
Alors, pas tous.
Qu'aurait vu les Paralympiques, qui s'est dit, tiens, j'ai envie de faire comme eux. Après tout, la personne vient si elle est toute seule.
Ben, malheureusement, pas tous, mais on travaille là-dessus. C'est-à-dire que moi, je travaille avec les différentes associations qui sont en convention avec la mairie du 13e et la ville de Paris. Et donc, je décide de leur attribuer une subvention qui leur permet de fonctionner et de mener à bien des objectifs et des actions. Par exemple, le sport féminin, développer la pratique féminine. Par exemple, le sport handicap, donc accueillir des personnes en situation de handicap. On a par exemple un club de judo qui s'appelle le Judo Club Baudricourt, qui accueille des personnes atteintes d'autisme, ce qui est quand même assez incroyable et de pas simple du tout. On a par exemple un club de tennis de table, Paris 13 Tennis de Table, qui est aussi en convention et qui accueille des personnes à mobilité réduite. Je peux vous en citer plein des exemples comme ça. Alors, ce n'est qu'un début, mais il faut continuer à poursuivre.
Voilà. Et justement, je me demandais, vous avez combien de clubs? Parce que je sais qu'on a doublé sur la ville de Paris les clubs. On est à 40 clubs parasport. Vous, dans le 13e, vous êtes à combien de clubs si vous avez le chiffre, peut-être?
Alors, à Paris, oui, c'est plus d'une quarantaine. Dans le 13e, il me semble qu'on a un peu plus d'une dizaine. Donc,
c'est quasiment
un quart de Paris. Quoi.
D'accord, merci.
Non, mais c'est bien.
Il y a déjà beaucoup d'infrastructures sportives dans le 13e, donc c'est d'autant mieux quand il y a aussi les clubs parasport et qu'on met la lumière et les moyens dessus.
Allez, on va marquer une petite pause musicale, hein, la première, et puis ensuite on va retrouver Vanessa pour son journal des sports, et puis on continuera, on va parler de cette rentrée de nos clubs phares dans le 13e, Eman. Hein. Allez, la pause musicale auparavant.
Yes, I can see ya. 'Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a rumor and I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. A sexy fish, damn, who's a sexy fish? Damn, girl, damn, who's a sexy fish? A sexy fish, damn, who's a sexy fish? Damn, girl.
Alors, cette émission, elle sera rediffusée, naturellement, demain, mardi. Et puis, il y aura le podcast, comme toutes les émissions, depuis février 2022. Vanessa, le journal des sports, et je crois qu'on va commencer avec l'exploit sportif de ce week-end, la victoire de Pogacar, champion du monde sur route. Il a tout gagné, le monsieur.
Ah oui, de toute façon, il brille à chaque fois et il l'a remporté largement devant Ben O'Connor et Mathieu Van Der Poel. Van Der Poel. Pardon, excusez-moi, c'est le nom belge. Evenepoel, lui, est cinquième et notre Français Romain Bardet est dixième. Ça, c'était pour les championnats du monde de cyclisme.
Mais on va rappeler qu'il a tout gagné. Il y a trois coureurs qui ont fait le triplé Tour d'Italie, Tour de France et puis championnat du monde. C'était Eddy Merckx, Stéphane Roche et maintenant Tadej Pogacar.
Et puis d'ailleurs, en même temps, se déroulaient les mondiaux de paracyclisme. Oui. On a remporté 25 médailles, super moisson. Finalement, ça fait que confirmer l'été olympique qui se transforme en été indien. Et pareil en paratriathlon aussi avec Léo Bergère qui a terminé deuxième après sa médaille de bronze au JO. Donc ça, c'était pour faire un point sur les parasports. Ensuite, en basket, on va s'intéresser à nos clubs franciliens. Nanterre a gagné face à Le Portel 92 à 74, tandis que le Paris Basket, lui, l'a remporté 102 à 87 contre Chalon-sur-Saône. En handball, c'est Le Tremblay s'est incliné face au PSG, puis Ivry. Pareil, c'est incliné par rapport au pays d'Aix. Et Créteil s'est encore incliné face à Chartres, 27 à 34. Oui. En rugby, le top 14. Donc le Stade français, après sa défaite face à Toulon, a perdu face à Pau, 30 à 16. Et tandis que le Stade Rochelet, lui, a gagné face au Racing 92, 17 à 16. Un petit début un peu compliqué peut-être pour nos clubs franciliens, mais bon, on est qu'en début de saison, donc
la
saison est longue, exactement. En volleyball, il y avait le Plessis Robinson et puis qui s'est incliné face à Paris. Et il y avait la Saforel Cup en volleyball féminin où le Valois Paris donc 3 a gagné face à Bordeaux.
Et 3-0. Puis 3-0
3-2. 3-2. Non, 3-2. C'était assez serré. J'ai pu voir un petit peu le match. Il y a eu 3 sets remportés. Et puis, troisième set remporté, c'était serré. Et puis, en MotoGP, le Grand Prix de moto. Donc,
en Malaisie.
Exactement. Roger Martin a gagné devant Pedro Acosta et Francesco Bagnaia. Et deux Français dans le top 10, tout de même. Fabio Quartararo. Tararo et Joan Zarco. Et puis sur les championnats du monde de cyclisme. Et pour finir, enfin, en boxe, les poids légers, c'est Fares Ziyam qui bat Matt Frevola, l'Américain, par KO. Morgan Charrière, lui, bat Gabriel Miranda.
Tu me spoil ma chronique.
Non, pardon.
Tu compléteras.
Ouais. Mais bon.
Bon courage.
Le gros résultat du soir, c'est la défaite. Je te laisse tout à l'heure la parole.
Merci.
De Menon, c'est un défi par chaos technique. Bon, je te laisserai le suspense tout de même.
Merci.
Je vais te laisser le suspense. Donc, et puis aussi, pour parler de la course Paris-Versailles.
Mythique course
Paris-Versailles. Donc, c'est Julien Golinelli et Mélodie Julien qui l'ont emporté. Julien Golinelli à 52-57 et Mélodie Julien en 55-59.
Voilà. Très bien. Eman, il y a eu le temps, malgré l'immense travail, d'assister en tant que spectateur à des épreuves.
Oui,
quand même. Oui, lesquelles et quelles ont été les plus fortes émotionnellement? Il y en a tellement.
Il y en a tellement. Il y a le beach volley avec la tour Eiffel derrière. Il y a l'escrime en équipe, au Grand Palais. C'était magnifique comme site aussi. Malheureusement, les Français, on était arrivés quatrième. Mais j'avais l'impression de porter un peu la poisse aux Français parce qu'à chaque fois que j'y allais, ils perdaient.
Oh, donc,
faut pas dire ça.
Sauf pour le basket 3-3 à la Concorde où on a quand même été.
Belle médaille d'argent.
Exactement, médaille d'argent. Mais il pleuvait des cordes ce jour-là, on n'a pas pu rester jusqu'au bout, mais ils ont réussi à terminer. Je suivais. Avec toutes les cordes qui me tombaient sur la tête, sur mon téléphone portable pour regarder la fin. Mais c'était quand même magistral, c'était magnifique. Ouais. Et puis,
et les Paralympiques.
J'ai regardé le judo aussi. C'était aux Invalides. C'était très bien.
Et les paras?
Les paras, je suis allé voir du paratir à l'arc.
Ah oui.
C'était très intéressant. J'ai Très honnêtement, c'était un sport que j'ai découvert.
C'est le but des jeux aussi.
Voilà, hein. Exactement. Et puis le site était là aussi magnifique, aux Invalides aussi. Donc, non, franchement, voilà. Et pardon, le judo, c'était à l'Arena Champ de Mars. C'était pas
oui, c'était l'Arena Champ de Mars. Ouais, ouais, on était mais, après, voilà. Ouais.
Donc, du coup, ouais, c'était vraiment super. Et bon, comme les Paralympiques aussi se mêlaient en même temps avec la période de la rentrée, j'ai moins pu voir les épreuves des Paralympiques.
Bon, ça fait drôle maintenant, on enlève tout.
Bah ouais, bah oui, ah, nostalgie.
Ah bah ouais, nostalgie. Même les anneaux, ils vont rester ou pas?
Ah bah.
Non, mais je veux dire.
Attends, tu poses les bonnes questions. Ouais. Hein.
Alors, je sais qu'il y aura les petites.
Tu poses vraiment les questions qui font débat. Ouais. Non, bah, c'est vrai que la mère de Paris a souhaité.
Il y aura un petit mauvais souvenir, quoi.
Exactement. Oui. Bah, d'ailleurs, je suis passé, parce que en dehors de mes activités à la mairie, je travaille dans le 16e et donc je suis passé à côté sur le pont Mirabeau et donc on peut voir la tour Eiffel et donc les anneaux sont décrochés. Hein. Ouais, donc désormais décrochés.
Mmh. Oui, bah, il y avait des problèmes aussi. Apparemment, ils n'auraient pas tenu l'hiver. Voilà.
Oui, bah, c'est lourd. Ce hein. C'est très lourd. Donc, quand on a très fort vent aussi, ça peut être. Enfin, voilà, faut faire attention.
Pour la vasque.
Bah, la vasque, on aimerait bien qu'elle reste, bien sûr. Bah, tout comme les statues aussi qui ont été dévoilées au moment de la cérémonie d'ouverture, magnifiques, qui mettaient en avant des figures féminines incroyables.
Ça, elles vont être dans le 18e. Hein.
Exactement, voilà. Elles vont être dans le 18e en approche de la porte de la chapelle. Et donc là, actuellement, elles sont exposées à l'Assemblée nationale. Donc je vous invite à y aller, hein, parce que les voir de près, c'est magnifique. Et puis, bah, on est fiers de ces femmes-là.
Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Alors, maintenant, justement, on parle de la rentrée. Cette rentrée, on l'a dit, elle a été un petit peu particulière, atypique, plus forte que d'habitude. Quels sont les sports qui ont bénéficié le plus de pratiquants? La natation, le judo, les sports
Alors, il y a la natation, mais la natation, c'était médaille. Déjà le cas.
Oui.
Parce que, bon, on a ce phénomène en France où on a du mal aussi à avoir... Les équipements sportifs adaptés à la demande. On a une grosse pénurie en France de piscines. Hein. C'est pour ça que nous, on a lancé un grand plan de création de piscines à Paris. Donc, on travaille sur un projet d'une nouvelle piscine dans le 13e à Carpentier.
Il y en a plusieurs,
mais on a par exemple Joséphine Baker qui risque malheureusement de ne pas tenir très longtemps encore. C'est compliqué. Et déjà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une piscine, déjà, ça ne rapporte pas de bénéfices pour une collectivité. Ouais, c'est plus à perte parce que ça coûte extrêmement cher en fonctionnement.
C'est pour ça qu'on les fabrique à l'aréna, puis après, on les défait.
Voilà, exactement. Ça a été éphémère à l'aréna de la Défense. Magnifique. Et en fait, ça coûte cher. Et donc, il faut faire très régulièrement des opérations de carénage pour entretenir la piscine. Donc, elle reste fermée pendant très longtemps. Donc, malheureusement, les gens n'en profitent pas tant que ça. Et donc, cette piscine risque de couler parce qu'elle est sur la Seine. L'idée est de pouvoir créer une nouvelle piscine avec deux bassins, dont un d'apprentissage. Parce que on a ce fameux grand plan du savoir nager qui est un plan national c'est extrêmement important et donc on va le positionner à Carpentier au centre sportif Carpentier donc dans un quartier populaire.
Oui, d'accord. Et donc, il y a d'autres sections, associations qui vraiment bénéficient de l'effet JO et
Au-delà de la natation, on a la gymnastique le basket évidemment, le basket qui, même si on est arrivé deuxième, on a eu la médaille d'argent,
que faire
face à Stephen Curry des États-Unis.
Que faire face à un Curry incroyable,
et un Wemby génial.
Ah oui, totalement.
Lui, Wemby, il a été cité par les Américains. Moi, j'ai interviewé des supporters et ils ont cité Wemby. Donc, je trouve que c'est final, tant chez les hommes que chez les femmes, si je me permets de rebondir. Elles ont été magnifiques.
Bien sûr.
Arriver en finale et être face aux États-Unis, qu'est-ce qu'on pouvait rêver de mieux? Je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux. Voilà.
Ah, c'est clair.
La victoire, peut-être.
Bien sûr, mais bon, c'est comme les États-Unis, la top nation du basket depuis toujours.
Oui, bien sûr, c'est vrai.
On a déjà eu des beaux matchs, donc je trouve que c'est bien. Bien sûr, ça aurait été encore mieux la victoire, mais on va pas se plaindre sur ces jeux.
Donc, ça fait combien de pratiquants, là, en ce début de saison?
Alors, honnêtement, je ne saurais pas te dire, parce que je n'ai pas encore fait le point avec les assos. Ça doit représenter quand même... plusieurs milliers de personnes, en tout cas. Je pense, 5 000 personnes.
Et encore, on peut encore venir s'inscrire
Ah oui, bien sûr. Bien
on
sûr.
Va pas refuser du monde, quoi.
Bah, ça dépend où vous voulez vous inscrire.
Oui, non, mais voilà.
Mais
non,
mais en tout cas, moi, je, problème, fais maxi- hein. je fais mon maximum oui. avec le maire du 13e pour qu'on puisse faire bénéficier le, du plus de créneaux possible, en tout cas auprès des associations qui en ont besoin. Et étonnamment aussi, on a une poussée vers la danse.
Oui.
On a une grosse poussée vers la danse, donc on a beaucoup de gens qui veulent s'inscrire, notamment pour le hip-hop.
Ouais, bah c'est breakdance.
Donc exactement, ah, bah, le breakdance vient du hip-hop, breakdance pardon.
Ouais, ouais,
et
dance, ouais.
et tu me vieillis, Philippe. Désolé.
Ah ouais.
Non non mais voilà. Ouais. En tout cas, le hip-hop et donc voilà, c'est plutôt sympathique.
C'est est-ce qu'il y a des nouvelles sections qui demandent à se créer?
Oui, on a de plus en plus de sections féminines qui se créent.
Ah, c'est bien.
Ouais, ouais. On a une grosse poussée ça, des inscriptions des filles en particulier, ce qui est super.
C'est bien, c'est bien.
Et donc, beaucoup sur le basket, effectivement. Mmh. Beaucoup sur le basket. Le football aussi.
Ah oui
ouais.
Bien.
Le football aussi. Ouais, ce sont les deux sports que je retiendrai et le judo aussi. Ouais.
Mmh, mmh. D'accord. Et alors justement, on parlait de l'héritage. Dans le sport féminin, il manquait aussi de vestiaires uniquement pour les femmes. C'est un problème, ça?
Oui, tu veux dire dans nos équipements?
Pas dans le 13e forcément, mais d'une façon générale, sur Paris, il y avait des femmes qui ne pouvaient pas faire du sport parce qu'elles elles n'avaient pas de vestiaire approprié.
Ah, effectivement, oui, j'ai pas trop suivi ce sujet-là.
Non, c'est un problème. non, mais c'est un problème qui avait été mis par Paris 2024 pour
d'accord.
favoriser la pratique du sport. Il y avait malheureusement certaines collectivités qui ne pouvaient pas accueillir suffisamment de femmes parce qu'il n'y avait pas suffisamment de vestiaires pour elles.
Bah, on a un problème d'infrastructure, comme je le disais tout à l'heure. Donc, les infrastructures, on essaye au maximum de les adapter. Déjà, il y a eu quand même une belle évolution, un beau développement. Les moyens ont été mis par les collectivités. Donc c'est très bien. Après faut continuer quoi.
Bah
faut continuer. Après évidemment c'est extrêmement important d'avoir des vestiaires séparés pour garder l'intimité.
Oui.
En tout cas, en tout cas à Paris c'est une norme, c'est obligatoire. Donc on ne mélange pas dans un même vestiaire les filles et les garçons.
Bien sûr.
Et je me posais une question puisque il y a quand même, il va y avoir forcément des coupures budgétaires, une baisse de 200 millions pour l'enveloppe budgétaire du ministère des Sports. Peut-être,
comment vous avez fait ?
Oui, voilà, comment on arrive à plus ou moins quand même équilibrer les choses. Parce que forcément, puis si on coupe les 200 millions, c'est aussi beaucoup moins pour les collectivités territoriales. Donc, ça ne doit pas être évident de gérer ça. Enfin, c'est pour 2025, mais voilà déjà une baisse de 200 millions par rapport à cette année olympique.
Bah, c'était déjà beaucoup moins ces dernières années. Hein. Les collectivités, elles font énormément d'efforts et elles investissent énormément. Donc, elles s'endettent, il faut le dire. Hein. On parle beaucoup de la dette de Paris, mais c'est l'investissement. Donc, quand on investit, il y a un retour ensuite. Donc, il y a un gain. On enrichit le patrimoine de la ville. Et donc, du coup, ce qui permet d'ailleurs de rembourser.
Ouais.
Mais du coup, l'État baisse les dotations des communes d'année en année. Et ce n'est pas que sur le sport. Donc, c'est un impact sur tout, en fait, finalement. La baisse du budget du ministère des Sports, ça veut dire que le ministère des Sports va moins soutenir les associations, va moins soutenir les collectivités, effectivement, pour créer ou rénover des équipements. Le fameux grand plan de rénovation des 5000 dojos ou 5000 équipements en France, qui était financé par l'État, il n'y aura plus ça. Donc si on baisse le budget, oui, c'est compliqué. Nous, c'est ce qui nous permettait aussi de faire cofinancer par l'État certains projets de rénovation ou de création d'équipements. Voilà, je trouve ça dommage parce qu'on a vraiment besoin d'équipements. C'est une question même pas que sociale, c'est une question de santé publique aussi.
Exactement,
le sport, c'est un vecteur de santé aussi.
Il y a eu plusieurs rapports qui montrait hein, quand même que les jeunes bougent beaucoup moins, beaucoup de choses, mais au niveau respiratoire,
le
problème d'obésité et tout ça,
quoi
ça arrive de plus en plus jeunes. Quoi qu'il y a les 30
minutes à l'école maintenant. Ouais. Ouais, voilà.
Oui, enfin, mais c'est pas assez.
Ouais,
oui, mais
assez, bien sûr.
Enfin, encore une fois, je pense qu'on reste toujours un petit peu dans ce problème où le sport reste encore même s'il y a des progrès, le parent pauvre de... voilà. Mais y a, évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et,
ça
et
dépend chez qui. Oui, nous, on continue d'investir, en tout cas. À Paris, on continue d'investir.
Ça, oui. À Paris, on est quand même bien doté.
On est bien doté et on continue de s'améliorer parce que ce n'est pas parfait. Ça, c'est sûr et certain. Il nous manque plein de choses. On a encore plein de besoins à combler. Après... au niveau de l'État, oui. Enfin, mais moi, ça
ne
m'étonne pas trop.
Le ministère lui-même est un peu le voilà. Parfois, des fois, ministère délégué. C'est voilà. Pour les Jeux Olympiques,
moi, ce qui me choque, par exemple, dans ce nouveau gouvernement, pardon, je vais pousser un coup de gueule, mais c'est qu'il n'y ait même pas de secrétariat d'État au handicap.
Voilà, on allait en parler.
Il y a un ministre depuis hier ou avant-hier.
Oui, super, mais il a fallu quoi? Il a fallu attendre quoi?
Un coup de gueule, ça veut dire.
Bah oui, mais enfin, ça veut dire qu'il a fallu attendre combien de temps pour avoir ça?
Bien sûr.
On vient de passer quand même les Jeux Olympiques et Paralympiques.
C'était ça qui était étonnant.
Certaines personnes, notamment de l'État ou même la ministre des Sports, donnent des leçons à tout le monde sur le bien vivre ensemble, sur l'accueil des personnes en situation de handicap et qu'elles se disent soi-disant engagées pour les personnes en situation de handicap, mais dans les faits, au final, on fait face à un président qui s'en fiche royalement en fait des personnes en situation de handicap.
On a même un confrère journaliste qu'on a passé donc sur l'antenne qui a poussé un coup de gueule, estimant qu'on pouvait quand même pendant les Paralympiques, on n'était plus à 3 jours près pour connaître le nouveau Premier ministre.
Oui, bah oui. Bah
c'est arrivé le jeudi. Je crois la nomination pouvait attendre le lundi pour voilà, sachant qu'après il a fallu 15 jours pour trouver des ministres, donc mais c'est vrai qu'on n'était plus voilà. Donc
non mais bon, de toute façon personne n'a compris cette dissolution, ça a foutu un bazar monstrueux. Enfin voilà, moi-même je pense que j'ai compris, c'est qu'on fait face à un président qui a tout simplement un ego surdimensionné et qui pense surtout à sa pomme et pas à l'intérêt des Français.
Bon,
c'était mon petit coup de gueule.
Oui, non, c'est bien.
On est là pour ça. Moi, il faut, c'est important.
Bah, la radio, c'est fait pour s'exprimer.
Absolument. C'est la force de la radio, l'authenticité.
Exactement.
Voilà. Ouais. Au niveau des infrastructures, donc il y a eu un événement important quand même. C'est le stade du Paris Atlético, le stade Boutroux, qui a été rebaptisé le stade Pelé, quoi.
Exactement.
Avec M. Infantino au mois de juin.
Eh oui, ce n'est pas rien quand même.
Non,
on a réussi à le faire venir.
Oui.
J'en suis particulièrement fier, je ne te cache pas.
Bien sûr.
D'avoir le président de la FIFA chez nous dans le 13e, dans un quartier populaire de Paris et du 13e, c'est pas rien. Mais c'était aussi l'objectif.
Je ne te cache pas.
Parce que c'est ce qui nous a permis aussi désormais de nous faire davantage accompagner par la Fédération française de football, de nous faire respecter davantage par la Fédération française de football et de soutenir davantage du coup notre club, le Paris 13 Atlético. On a annoncé à ce moment-là un grand plan, donc c'est financé maintenant, c'est nous qui le finançons à 100%, un projet à 14 millions d'euros pour faire un véritable stade pour le Stade Pelé. Donc 14 millions d'euros investis sur la table dans un quartier populaire. On a un nouveau et beau nom qui est Pelé, un nom prestigieux qui est le plus grand joueur de tous les temps de football, dans un quartier populaire aussi. Nous, en fait, avec le maire du 13e, on met sur le même plan la piscine de la Butte aux Cailles et le stade Pelé. Ce sont deux choses égal en fait. C'est-à-dire que c'est tellement devenu un lieu de retrouvailles, c'est tellement devenu un lieu important. Il suffit juste de se balader dans les rues du 13e arrondissement pour croiser très souvent des gamins avec le maillot du club.
C'est vrai qu'on en voit régulièrement dans les trams, tout ça.
Exactement.
Régulièrement.
Et pas que dans le 13e d'ailleurs, ça commence à dépasser les autres arrondissements.
C'est bien. Mais... comme quoi, hein, mais,
Exactement. Mais donc c'est un grand plan, donc on travaille dessus avec nos ingénieurs et la CEMAPA, qui est l'aménageur du quartier, qui travaille sur la ZAC Bédier-Oudiné, donc le quartier dans lequel nous sommes, dans lequel le studio est. Et donc, l'objectif est de pouvoir proposer dans les prochaines années un tout nouveau et beau stade. On a quand même déjà fait de belles avancées parce qu'on a embelli quand même le site avec deux très belles fresques, dont une d'une artiste brésilienne qui est venue du Brésil directement, qui s'appelle Rafa Mon, et qui a peint Pelé sur...
Pour le stade Pelé, c'est brésilien. Hein.
Exactement. Voilà. Ouais. Et là, un autre artiste qui a peint sur tout le mur de soutènement le long du terrain, aussi une fresque à l'effigie du grand roi Pelé. Et on a refait le terrain, bien évidemment, ce qui... n'est pas rien parce que c'est plus de 500 000 euros quand même pour refaire un terrain. Et on a fait une toute nouvelle entrée aussi du stade qui est maintenant magnifique. Je ne sais pas si tu y es passé, mais une prestigieuse entrée au même niveau et au même rang que ce prestigieux nom.
Alors maintenant il faut que le Paris Atlético se maintienne maintenant.
Il faut qu'il se maintienne, moi j'y crois. Là, je pense qu'ils sont encore en train d'apprendre, mais ils ont quand même pas mal appris de leur dernière montée au niveau national. Je pense que déjà là on peut les féliciter, c'est sur leur gestion budgétaire. Parce qu'il y a la DNCG, la fameuse DNCG à la fin d'un championnat où on se fait regarder de très près par la fédération et donc il faut avoir les comptes sains, faut pas faire n'importe quoi. Il y a des clubs qui sont morts à cause de ça.
Oui, non, c'est sûr.
Donc déjà, c'est une bonne gestion budgétaire. Deuxième chose, c'est aussi une équipe formidable. C'est-à-dire qu'on a gardé le même sélectionneur, Fabien Valéry, qui a permis de remonter au niveau national pour la deuxième fois. Donc cette fois-ci, il est resté avec nous et je pense que c'est un excellent entraîneur et sélectionneur. Et on a une belle équipe aussi. On a une belle équipe, on a de belles pépites. Il y a des personnes qui sont restées par rapport à la saison dernière et de nouvelles personnes, de nouveaux talents qui ont intégré l'équipe. Et je pense qu'ils font quand même des choses assez remarquables. On en discutait tout à l'heure, mais par exemple, faire égalité avec Sochaux, je trouve que c'est assez remarquable quand même.
Incroyable.
Faire un partout avec Sochaux. Voilà, par exemple. Et ça, c'était leur deuxième match, je crois. Oui. Donc, effectivement, ils ont été derniers du classement, mais ils sont en train de remonter un petit peu.
Oui, ils ont gagné. Alors, on en parlera tout à l'heure. Mais
est-ce qu'ils vont passer en Ligue 2? Bon, je n'y crois pas du tout. Hein, ouais. On va se dire les choses.
Oui, parce que là, ça pose d'autres problèmes.
Voilà, là, exactement. Pour le stade, là, c'est sûr. Ça va être très compliqué. Mais par contre, s'ils peuvent se maintenir, ce serait pas mal. Et moi, je crois en eux.
Alors, autre club phare du 13e, même s'il est parti dans le 18e, c'est le Paris Basket quand même. Et bon, il y a un petit peu de regret quand même, hein, parce que là, c'est un club qui flambe. Hein,
qui va jouer
l'Europe.
Bah oui, l'Euroleague, exactement. Ouais. Et en fait, on est en train de réfléchir sur l'usage de la Halle Carpentier actuellement avec mes collègues de l'Hôtel de Ville, donc Pierre Rabadan et Karim Ziadi. Mm-hmm. Et donc, on aimerait en faire un lieu. Assez polyvalent. On aimerait en faire un lieu qui permette d'accueillir notamment les matchs du Paris Sporting, donc un club de futsal qui est en première division, en D1, et également de pouvoir accueillir certains matchs et entraînements pour l'Euroleague du Paris Basket masculin et d'accueillir aussi des entraînements féminin.
Oui, parce qu'il y a en projet la création d'une équipe féminine pour le Paris Basket.
Exactement, exactement. Ouais. Ils l'ont lancé en fait en fin d'année dernière et donc voilà, c'est un projet auquel ils tiennent et auquel on tient aussi. On ne peut qu'être ravi en tout cas qui développe la partie féminine de leur club parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talents là aussi. On a un club du 13e qui accompagne le Paris Basketball, qui est la Don Rémy Basket 13, qui est le deuxième club de France en nombre de licenciés et le premier à Paris. Ce club participe très régulièrement aux détections et accompagne le Paris Basketball aussi pour ses détections, pour ensuite, pourquoi pas arriver dans l'équipe première et performer.
Et le Paris FC, quels sont les rapports? C'est pas complètement club pas du 13e, non?
Non, on n'a pas de rapport difficile avec le Paris FC, on discute. Oui. On a rencontré Pierre Ferracci avec le maire du 13e cette année, une nouvelle fois. Donc, il souhaite que le stade Charletti évolue pour qu'il soit au niveau de la Ligue 1, aux normes de la Ligue 1. Il y a ce sujet, ce fameux sujet de la piste d'athlétisme. Ouais. Nous ne souhaitons pas supprimer cette piste d'athlétisme parce que les pistes d'athlétisme se font de plus en plus rares. Oui, ce serait assez bête de supprimer une piste d'athlétisme là où se situe la Fédération française d'athlétisme.
Oui, voilà, puis le meeting, il marche bien. Le meeting marche très
bien. C'est un succès chaque année. C'est devenu un rendez-vous au stade Charletti chaque mois de juin. On ne peut pas se permettre de se séparer de cela. Après, j'ai lu la presse comme vous, c'est que Pierre Ferracci s'est aussi prononcé sur des interrogations sur pourquoi pas déménager au stade Jean-Bouin, au Parc des Princes, en fonction de ce que souhaite faire le PSG aussi. Enfin voilà, il y a un positionnement et des interrogations, mais Enfin voilà, il, nous, on a notre club, le Paris 13 Atlético, et le Paris FC est un autre club de Paris que l'on respecte et avec qui on travaille aussi en bonne intelligence, mais enfin voilà, c'est un club parisien avant tout, c'est pas un club du 13e.
Oui. Allez, dernier petit mot, parce que je sais qu'après, il y a LCP, hein, il y a interview sur LCP. Comment se font les enveloppes budgétaires au niveau des clubs? Est-ce que c'est les pratiquants? Est-ce que c'est les résultats? Est-ce que c'est aussi les structures des clubs? C'est-à-dire qu'il y a des clubs comme le judo, par exemple, où il faut acheter des tapis. C'est peut-être un petit... C'est un mix de tout ça?
Alors oui, c'est un mix de tout ça. Donc le nombre d'adhérents est évidemment important, mais tout comme aussi les objectifs et les... Comment dire? La ligne de chaque association. Quels sont les objectifs de chaque association? Quelles sont leurs actions? Et donc, parce que nous, l'intérêt pour nous, c'est quel impact ils peuvent avoir sur notre territoire. Donc, j'en parlais tout à l'heure, mais la question des femmes dans le sport est extrêmement importante et nous tient à cœur. La question du social aussi, du sport accessible, est extrêmement importante. Donc, si ce sont des prix accessibles, ben, nos subventions permettent aussi de rendre ces prix accessibles aux gens. Et tout comme pour les personnes en situation de handicap, nous, on subventionne les associations, mais on leur achète aussi du matériel. La location de nos terrains, de nos équipements sportifs est un prix quand même assez remarquable parce que pour une heure, par exemple, de créneau dans un gymnase, une association peut payer que quelques centimes d'euros, ce qui n'est pas grand-chose en soi pour une association. Mais ça a un coût quand même, c'est-à-dire qu'en cumulé, si on fait 3-4 séances dans un gymnase par semaine, au bout d'un moment, à la fin de l'année, ça fait quand même une certaine somme.
Oui, c'est sûr. Eman, merci en tout cas.
Merci à vous pour votre invitation.
Merci beaucoup.
C'est un grand plaisir.
Ouais. À très bientôt. Hein. On se reverra peut-être au début du mois de janvier pour faire un petit peu les vœux.
Bah oui.
Hein. Puis bon, l'année 2025, ça va être un petit peu plus classique, traditionnel quand même. Hein.
Oh, ouais. On ne sait pas. On peut avoir des belles surprises quand même.
D'accord. Ok.
Je allez. Dis pas plus.
La deuxième pause musicale, c'est ma prière, Mike Brandt. Ensuite, on aura le foot et le MMA. Allez, c'est le retour de notre ami Benoît avant de retrouver Stéphane Desenclos tout à l'heure pour le point foot. Benoît, donc, que s'est-il passé cet été en MMA ?
Alors, je ne vais même pas parler de l'été. Déjà, bonsoir à tous. Très ravi de vous retrouver. Merci à Philippe de m'accueillir pour cette chronique MMA qui aura lieu à chaque fois les deuxièmes lundis du mois. Donc, très, très ravi. Et on va surtout parler ce soir de l'événement de ce week-end. Et quel événement, Philippe ? L'UFC Paris, l'Ultimate Fighting Championship qui a lieu à Paris. Et franchement, quel événement. Quel événement qui nous a à la fois rendu joyeux et à la fois déçus pour certains résultats qu'on va aborder tout de suite. Mm-hmm. Donc pour commencer, parce que moi j'ai adoré, j'ai adoré cet événement. Pour commencer, sans transition, on va bien évidemment parler de la défaite de Benoît Saint-Denis. Malheureusement, contre le Brésilien Renato Moicano. C'était clairement le main event. C'était le combat de la soirée qu'on attendait tous. Et malheureusement, Benoît Saint-Denis s'est incliné au deuxième round par arrêt de l'arbitre. Et oui, lors du combat, Benoît Saint-Denis a malheureusement subi trop de coups qui lui ont été infligés par le Brésilien. On pensait que Benoît Saint-Denis aurait l'avantage. Il était même favori sur la carte, mais malheureusement...
Et pourquoi il a perdu ? Que lui est-il arrivé ?
Alors, concrètement, ce qui lui est arrivé, dès le premier round, Moicano a pris l'ascendant sur lui. Mm-hmm. Il l'a amené au sol. Clairement, on ne pensait pas que Moicano arriverait à faire cela. On pensait clairement qu'il allait avoir une domination, que ce soit en striking, qu'on appelle en striking, c'est-à-dire pied-point, de Benoît Saint-Denis face au Brésilien, ou encore au sol. Et là, ça a été tout le contraire. C'est-à-dire qu'il s'est fait dominer sur tous ses aspects, tous les aspects un peu MMA, qu'on a pu observer hier soir. Et ce qui s'est passé, c'est lorsqu'il a été amené au sol, et ben Moicano a réussi à infliger des dommages assez conséquents à Benoît Saint-Denis, et pas n'importe quel type de dommage, parce qu'en fait, dès la fin du premier round, Benoît Saint-Denis ne voyait plus d'un œil.
Ah bon ?
Clairement, il avait l'œil trop gonflé pour pouvoir voir de son œil, si je ne dis pas de bêtises, de son œil droit. Il ne voyait que de son œil gauche. Et à la fin du deuxième round, ben, presque l'œil gauche était quasiment fermé. Le médecin a dû intervenir, a fait passer les fameux tests qu'on connaît tous en boxe lorsque le médecin demande combien de doigts j'ai, etc. Vous devez bien répondre pour s'assurer de la sécurité du combattant. En l'occurrence, Benoît Saint-Denis était incapable de donner les réponses avec son œil droit. Et donc, du coup, le médecin a pris la décision radicale d'interrompre le combat et l'arbitre a accordé cette décision. Donc, déception pour nous, les Français. Mais ça a resté quand même une soirée d'anthologie. Parce qu'il y a eu certes la défaite de Benoît Saint-Denis, mais on a eu quand même la victoire en common event de Nassourdine Imavov qui, clairement, Dieu merci, a eu les résultats escomptés. C'est-à-dire qu'il a battu son adversaire qui n'était pas n'importe qui était l'Américain Brendan Allen, qui est clairement un adversaire qui était un peu compliqué, puisque déjà c'est un adversaire qui ne se plaignait de ne pas être dans le top 10 des meilleurs combattants de la catégorie des poids moyens. Imavov, lui, au regard de ses derniers combats, maintenant fait partie du top 10, même du top, si je ne dis pas de bêtises, il est presque dans le top 5, ou il est dans le top 5 carrément. Donc il y avait un petit esprit revanchard de Brendan Allen, et lors du combat, concrètement, pour te décrire un peu le combat, Philippe, premier round, Nassourdine Imavov, il est un peu surpris par les amener au sol de Brendan Allen, qui arrive à amener au sol Nassourdine Imavov, qui le maintient pendant tout le round. Mais ensuite, dans le deuxième et dans le troisième round, ça a été clairement une domination de Nassourdine. Et je ne me sais plus si ça a été un KO technique ou pas, mais non, ça a été clairement une victoire à décision unanime. En fait, voilà, Nassourdine a réussi à le dominer sur les deux autres rounds. Donc c'est une parfaite victoire pour lui, on est très heureux, puisque voilà, c'est là clairement l'un des combattants français qui est le plus proche de la ceinture. Et à la fin même du combat, Nassourdine a clairement fait comprendre ses intentions, ses ambitions, qui est que là il souhaite avoir le title shot, donc le combat pour la ceinture des poids moyens. On n'a pas que la victoire de Nassourdine, mais on a également d'autres victoires de plusieurs Français. On va bien évidemment parler de la victoire de Morgan Charrière en poids plume, clairement qui a eu une victoire au deuxième round par KO, et quel beau KO face au, si je ne dis pas de bêtises, à Gabriel Miranda, qui est brésilien également, et vraiment ça a été un beau combat. Premier round un peu serré, je trouve, où il y avait un bon échange de coups entre les deux, et deuxième round, clairement KO direct, Miranda ne se relève plus, donc c'est une belle victoire, et tellement le spectacle était beau, il a eu le droit, à la fin de sa victoire, Morgan Charrière, à un chant de la Marseillaise. Clairement, public de Bercy a scandé la Marseillaise. Et franchement,
il y a dû y avoir des frissons. Hein.
Mais clairement, moment mythique, emblématique. Et je pense que ça restera dans l'histoire du MMA français. Et j'espère qu'on aura d'autres événements d'UFC en France. En fait, parce que clairement, c'est des événements qui fédèrent le public français.
Ça revient quand même régulièrement, les
ça
matchs.
Ça revient il y en a au moins une fois par an, mais apparemment, là, il se peut qu'il y en aurait plus.
Il s'appelle, il y a des négociations,
peut-être qu'il y en a plus. Parce que les Américains, je pense qu'ils se rendent compte que le MMA, clairement, ça apprend en France. Et ça cartonne, donc ça, c'est super. En plus de la victoire de Morgan Charrière et de Nassourdine Mavov, on a eu également la victoire de Fares Yam, très bien évoquée tout à l'heure. Donc du coup, effectivement, lui également, par KO, très très joli KO au troisième round, si je ne dis pas de bêtises, face à Matt Frivola. Coup de genou au plein visage, c'était super. Matt Frivola est tombé raide au sol, et du coup, victoire du Français. Ça fait plaisir, c'était un beau KO, c'était un beau spectacle. Et avec, bien évidemment, il y a eu également la victoire de William Gomis, qu'il ne faut pas oublier. Un autre nom m'échappe, mais si je dis pas de bêtises,
je le retrouverai.
Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est dommage. On a eu quand même d'autres défaites. On a eu la défaite de Kevin Jousset chez les poids mi-moyens. Clairement, on espérait qu'il gagne, mais l'adversaire Brian Battle a été supérieur. Je pense que à la fin du premier round, Kevin Jousset a dû prendre un coup assez puissant. Il l'a dit en interview, au début du deuxième round, il prend un coup assez important au niveau du foie, et donc du coup, il essaye de récupérer pendant tout le combat, mais malheureusement, il finit KO à la fin du deuxième round par l'Américain Brian Battle, qui a clairement été supérieur. Et enfin, défaite qui m'a fait un peu mal au cœur, c'est la défaite de Nora Cornell chez les poids coqs. Donc du coup, c'était la combattante féminine du coup de l'événement UFC Paris. Elle a perdu, elle s'est inclinée à la décision face à la portugaise Jacqueline Cavalcanti. Et défaite qui m'a un peu touché, puisqu'il faut savoir qu'on vient de la même ville. Elle est dépinée sur scène, tu es également dépinée sur scène.
Il y a
une petite fibre quand même, un petit lien quand même. Donc j'aurais aimé qu'elle gagne ce combat. Mais quoi qu'il en soit, c'est resté quand même un très très bel événement. Ça a été une soirée mythique, il y a eu des victoires, il y a eu des défaites. Tout ce qui en ressort, c'est que le MMA français a de beaux jours devant lui. Clairement, aujourd'hui, la France est une nation du MMA.
Voilà, c'est pour ça qu'on en parle régulièrement.
Clairement.
Sur mon pari FM. Alors, je pense qu'on va avoir notre ami Stéphane au téléphone tout à l'heure. Juste un petit mot avant de l'avoir au téléphone. Benoît, il y a des rendez-vous phares là, dans les prochaines semaines là.
Dans les prochaines semaines, oui, il y a des rendez-vous phares. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que Cyril Gann va combattre en octobre. Mm-hmm. Normalement, Cyril Gann va combattre en octobre, donc c'est pas n'importe quoi. Ça va être un gros combat. C'est quand même le combattant français qui s'est le plus rapproché de la ceinture du UFC. Ceinture de champion chez les heavyweight. Là, il va affronter un adversaire qu'il a déjà battu. Je ne me souviens plus de son prénom. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'opportunité pour lui de peut-être avoir un title shot. Parce que oui, le champion en titre actuellement, le champion par intérim, c'est Aspinall qui souhaite affronter John Jones. Mais visiblement, John Jones souhaite partir à la retraite. Donc auquel cas, si John Jones ou Miocic, l'un des deux combattants, part à la retraite, il est possible que Aspinall affronte le vainqueur entre Cyril Gann et j'ai oublié le nom de l'adversaire. Mais on espère que ce sera Cyril Gann, et donc du coup on espère qu'il aura ensuite l'occasion de combattre pour la ceinture.
Très bien, merci Benoît. Bah, merci. Tu nous reparleras de tout ça dans 15 jours. Hein,
avec plaisir.
Et puis Mathieu Nicourt sera là. Hein, donc, lu son roman.
Je n'ai pas encore lu, mais j'espère le lire. Mais je l'ai rencontré plusieurs fois. On est allé faire plusieurs interviews avec Souleymane, donc ce sera toujours un plaisir de le revoir.
Très bien. Allez, du MMA au foot, il n'y a qu'un pas. Je vais retrouver mon ami Stéphane Desenclos. Stéphane, bonsoir.
Oui, salut Philippe.
Ouais. Ça va bien, Stéphane ? Bon, alors, la nouvelle du jour, donc Grisou qui s'arrête.
Ouais, un peu triste quand même.
Oui.
De voir une légende du football français qui s'arrête. Comme ça, mais bon, il a 33 ans, il était moins performant, mais je pense que quoi, en équipe de France, donc c'est peut-être là pour ça qu'il arrête.
Oui, je
il
pense.
A un peu malaise avec Didier Deschamps, mais sinon, c'est toujours un peu triste, quoi. C'est un joueur exceptionnel, quoi.
Oui, puis un joueur super sympa. Hein. On pourrait le classer comment parmi les tout meilleurs joueurs français, peut-être l'équivalent d'un Alain Giresse, par exemple.
Oh non, moi,
non.
Moi je pense beaucoup plus.
Ouais.
Moi, d'après moi, mais après ça se discute. Hein. Je pense qu'ils vont en parler pas mal
bien sûr.
Dans les combos du foot. Là,
ah oui, justement, c'est pour ça.
On en discutait avec sur par message avec pas mal d'intervenants de cette émission. Donc selon les uns les autres, et ça varie un peu, mais pour moi il est top 3, c'est derrière Platini et Zidane, aujourd'hui c'est Antoine Griezmann, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Je pense que c'est le joueur le plus influent, le qui a le plus d'influence sur l'équipe de France de ces dernières années. Il a des titres, bon, il n'a pas, par exemple, ça peut se discuter avec, bien sûr, Olivier Giroud pour ses buts, mais je pense qu'il est moins influent, mais surtout par rapport à Thierry Henry, par exemple.
Oui, oui.
Mais je ne sais pas qu'il y a l'Euro et la Coupe du Monde, mais bon, c'était quand même pas à son prime, Thierry Henry, quand il a été top et quand il a été un joueur très important en équipe de France, il y a quand même eu moins de réussite quand même, quoi.
Oui.
Donc, je pense que... voilà.
Et puis Griezou, 137 sélections quand même, hein, dont ça démontre sa longévité.
Oui, tout à fait. Puis c'est, oui. Il a mis 44 buts. Donc
ouais,
il est, il 44 buts. Ça fait combien tiens, 5e, 6e buteur. Mais par contre, il a mis 30 passes, je crois. Donc c'est le meilleur buteur de l'histoire. Le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Donc après, chacun a son rôle, chacun a sa place. Puis on l'a vu. On l'a vu aussi, par exemple, à l'Euro, hein, que quand il n'est pas trop dans le coup, ça ne tourne pas. Donc, ça a été pendant 10 ans, quand même. Il a été quand même au sommet. Quart de finale de la Coupe du Monde en 2014.
Eh oui.
Finaliste de l'Euro en 2016 et troisième du Ballon d'Or, où il fait quand même un Euro exceptionnel. Il faut quand même savoir qu'il a fait un Euro 2007 exceptionnel.
Ouais, oui, ouais.
Il est troisième du Ballon d'Or à la fin de l'année, derrière Ronaldo et Messi. 2018, il est champion du monde. Bon, on va passer sur 2020. 2022, oui. Finaliste de la Coupe du Monde. Avant de rater sa finale, il était vraiment un des meilleurs joueurs du mondial. Griezmann, hein, dans un poste un petit peu revu. Donc là, il fait même demi-finaliste de l'Euro,
oui.
Hein,
bah oui,
quoi qu'on puisse en dire. Donc c'est quand même exceptionnel, quoi.
Ouais. Alors, un seul mot, hein, comme l'a dit Didier Deschamps, merci.
Ouais, merci ouais. L'ami. Puis, et puis, bah, on aurait bien aimé que. Qui continue jusqu'à la Coupe du Monde. Je pense qu'il pouvait continuer jusqu'à la Coupe du Monde. C'est pas le genre à prendre du poids, vraiment. C'est pas le genre à se laisser aller. Donc je pense qu'il pouvait largement continuer. Mais apparemment, je pense que tout n'était plus en phase complète avec le sélectionneur. Et puis lui, quoi.
Allez, un petit mot sur la semaine de Coupe d'Europe, parce qu'il y a quand même eu des matchs de Ligue Europa. Nice qui a concédé le nul devant la Real Sociedad, hein, un partout. Et puis Lyon qui a battu l'Olympiakos 2-0.
Ouais, tout à fait. Bah, on continue. Hein,
bien sûr.
On est quand même, il faut le dire, hein, ça n'a pas été assez évoqué. On est quand même en tête au niveau, par exemple, des points glanés, des points UEFA glanés. On est le championnat. J'en suis particulièrement content, hein, moi qui, comme tu le sais, ouais. Philippe est un grand défenseur de la Ligue 1. Et ben, on est le championnat qui est en tête. C'est oui. les clubs français, la Ligue 1, qui a pris le plus de points. Donc, c'est vrai que ça continue. Après, à part Lille, il n'y a eu que
une seule défaite. En fait, c'est voilà.
Voilà. Ouais. Et puis bon, on peut pas non plus leur en vouloir, même si le match n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. Porto, c'est quand même une équipe cette saison en tout cas qui est assez, qui peut jouer les surprises en Ligue des Champions.
Par contre, ça s'est moins bien passé pour nos féminines, hein, Stéphane, parce que donc en Ligue des Champions, il y aura que Lyon.
C'est pareil.
Ouais, il y aura que Lyon.
Ouais,
le Paris FC qui avait été battu 5-0 à l'aller a été battu à Manchester City 3-0. Et pareil pour le PSG, battu à Turin 3-1 et qui a été battu à domicile par cette même équipe de la Juventus 2-1. Donc malheureusement, c'est terminé pour le PFC et le PSG chez les féminines.
Ouais, voilà. Pour le PSG, c'est quand même un peu catastrophique. Je ne sais pas depuis combien de temps le Paris Saint-Germain n'a pas joué. La Ligue des Champions, mais ça fait quand même très longtemps. Donc effectivement, maintenant, je sais pas trop, moi, je suis pas trop au fait, j'ai pas trop d'informations sur l'équipe masculine, le féminine, pardon, du PSG, mais disons que ce que je regarde, je suis un peu surpris quand je vois, elle dépend quand même directement de Nasser El Khelaifi, du PSG, j'arrive pas à comprendre comment... Il y a toujours un écart aussi important avec des clubs comme Lyon. Là, on a vu là, notamment la meilleure joueuse du Paris Saint-Germain, la meilleure joueuse de Ligue 2 D1, tout simplement. Hein. Je ne me rappelle plus son nom exact, mais qui a signé à Lyon cet été, oui. Qui a quitté le Paris Saint-Germain, qui était en fin de contrat et qui a signé à Lyon. Je trouve ça un peu inquiétant. Puis bon, ouais. La Juventus, les Anglais, ils vont aller assez vite. Les Espagnols, Barcelone était devant. Donc ça va mieux. Mais alors, un club italien, la Juventus, ça, c'est, oui. Il y a 3-4 ans, ça ne serait jamais arrivé, ce genre de choses. Ouais, ouais.
Donc, il n'y aura que les filles de Lyon donc, pour poursuivre l'aventure en Ligue des Champions. Ouais, allez, ouais. Ligue 1, Stéphane, on marque toujours autant de buts. Alors, on va rappeler donc les résultats. Auxerre qui a battu Brest 3-0. Le Paris Saint-Germain avec un énorme Barcola qui a battu Rennes 3-1. Nul entre Lens et Nice 0-0. Victoire de Lille au Havre 3-0. Monaco qui bat quand même dans la douleur Montpellier 2-1. Victoire de Lyon à Toulouse 2-1. Nul entre Nantes et Saint-Etienne de partout. Reims qui va gagner en G3-1. Et puis Quoique pour Marseille, battu donc à Strasbourg 1-0. Ce qui fait que c'est PSG et Monaco qui se partagent donc la tête avec 16 points. Devant Marseille qui a 3 points, 3e. 4e, Reims 11 points. Et 5e, Lille et Lens 10 points.
Ouais, tout à fait. Moi, je dirais qu'il n'y a rien vraiment de nouveau sous le soleil. Ouais. Si ce n'est que y a eu beaucoup. Quoi qu'on en dise, je pense que. L'Olympique de Marseille. Je pense que depuis le début de saison, il y a une espèce de mode qui fait que le Paris Saint-Germain est un peu sous-coté, c'est-à-dire que c'est de bon ton de dire de trouver toujours le truc qui ne va pas au Paris Saint-Germain pour critiquer qu'ils se sont affaiblis et tout. Et d'un autre côté, l'OM qui est un peu surcoté aussi quand même. Donc, et on le voit un petit peu avec ce qui arrive. Moi, je continue à penser que Monaco peut inquiéter le Paris Saint-Germain parce que mine de rien, il y a des choses qui ont changé à Monaco. On l'a vu notamment avec ce qui s'est passé ce week-end, hein, avec ce but à la dernière seconde qui a été marqué. Un état d'esprit, une envie de se battre, d'aller chercher les points et tout qu'ils n'avaient peut-être pas avant. Ils ont aussi un coach qui commence un peu à durer. Si on regarde les dernières années, il y a eu quand même beaucoup de changements. Très peu d'entraîneurs qui ont fait deux saisons de suite hein, sur les dernières années. C'est une des premières fois. Donc moi, je crois beaucoup en Monaco. Donc ça reflète un peu le début de saison. Et puis l'OM, ça reste quand même une très belle équipe. Mais bon, l'OM, De Zerbi l'a dit lui-même, ils sont nés cette année. Quoi. 12 nouveaux joueurs. Donc il faut que ça se fasse une équipe et tu peux pas donc ce qui est arrivé à Strasbourg avec très bon Strasbourg d'ailleurs c'est ça oui. Surtout qu'il faut souligner hein, on en avait parlé je crois Philippe déjà ensemble sur ça, c'est-à-dire qu'on a un peu un changement d'état d'esprit je trouve avec des joueurs qui ont envie de faire jouer leurs équipes d'aller vers l'avant qui sont alors pas forcément une question d'argent parce que Strasbourg c'est que des jeunes et tout, on voit très bien qu'il y a une quelque chose qui se met en place quoi, faut reconnaître que c'est un régal quoi voir une équipe jouer comme Strasbourg quand vous avez vu la semaine d'avant Reims, même si Reims est quatrième et va faire des belles choses peut-être, quand vous avez vu Reims, Paris Saint-Germain à 10 derrière à toujours un peu mettre des coups, quoi. Bon, essayer de jouer vraiment la défense à outrance et que vous voyez Strasbourg-Marseille, c'est une façon d'aborder les matchs complètement différentes, quoi, complètement différentes. Ouais. Et c'est vrai que je préfère largement de celle-là, quoi. Moi, vraiment, Strasbourg, c'est mon coup de cœur. Mon coup de cœur de ce début
de championnat. Ouais. En tout cas, on a un beau championnat quand même, Stéphane. Hein. On marque des buts, finalement, c'est sympa. Puis avec du suspense qui s'annonce, hein, parce que ça va tirer.
Il faut le dire à tous ceux qui ne voient que par les championnats étrangers et tout. On a des résultats en Coupe d'Europe, on marque des buts. Oui, on n'a quand même pas tous, comme bien sûr, on ne peut pas les avoir tous, on a quand même certains matchs qui sont très intéressants. Le Marseille était très intéressant. Le Lens Nice était pas mal aussi, même s'il y a eu 0-0 au final. C'était un match très très plaisant à regarder. avec une mi-temps pour quasiment pour chaque équipe. Donc il se passe des belles choses, des choses intéressantes quoi.
Alors en bas de tableau, on va rappeler que Toulouse est 15e avec 5 points, 16e Montpellier et Saint-Étienne 4 points et 18e Angers 2 points. Donc là on connaît déjà des équipes qui luttent depuis plusieurs années pour le maintien et on retrouve pratiquement les mêmes hein. Toulouse, Montpellier, ouais. Saint-Étienne qui est remonté, Angers qui est remonté, donc voilà.
Ouais. Alors c'est un peu décevant pour Toulouse, parce que oui. Quand je parlais justement de ces équipes qui jouent pas mal, qui jouent vers l'avant, qui veulent faire du jeu et pas fermer le jeu tout le temps, je pense que Toulouse en fait partie de ces équipes-là. Maintenant, après, il y a peut-être aussi un petit brin de chance. On a vu notamment, encore une fois, je reparle de Strasbourg OM, où ils auraient pu aussi égaliser, les Marseillais, ils auraient pu aussi prendre plus de buts, mais ils auraient pu aussi égaliser. Bon, après, ça tourne d'un côté, et Toulouse, ça tourne pas pour eux. On l'a vu avec Lyon, hein, parce que Lyon marque à la 95e minute, je crois, le but de la victoire. Donc, mais sur le match, je ne sais pas si c'est... Totalement mérité, en tout cas pour Toulouse, de perdre le match quoi. Et Toulouse, c'est une équipe qui joue au ballon quoi, qui joue au ballon, qui a des joueurs de ballon, qui a des jeunes, qui essaye de faire quelque chose, un entraîneur qui est très 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 intéressant, lui, comme De Zerbi, comme l'entraîneur de Strasbourg, comme bien sûr Luis Enrique au Paris Saint-Germain. C'est des entraîneurs qui ont des idées, qui veulent faire jouer, qui misent sur le collectif et tout. C'est très intéressant. Donc ce qui se passe est très intéressant, et ceux qui sont un peu de la plus vieille école, je dirais le symbole, c'est Michel Desarcarian, mais on peut aussi parler peut-être d'Olivier Staloglio. C'est inquiétant. Peut-être que Strasbourg, peut-être que Angers, par contre, va arriver à s'en sortir grâce au jeu. On ne sait pas.
Très bien. En tout cas, si le PSG est en tête avec Monaco en Ligue 1, le Paris FC l'est en Ligue 2. Hein. On va rappeler quand même les deux journées pour le Paris FC. Oui. Hein, ils ont battu Guingamp 2-0 mardi et ils sont allés gagner dans ce qui était le derby au Red Star 3-1. Et ils sont en tête avec 15 points devant Grenoble, Lorient et Dunkerque 13 points. Bon, alors derrière, il y a quand même Metz, Annecy, Bastia et puis Amiens. Ça reste un championnat avec 11 points. Ça reste un championnat quand même encore ouvert. Hein.
Ah oui, bah comme tout le temps, je me défie de miser sur une équipe plutôt qu'une autre. Et puis même dites, regardez, bah c'est quoi le choc le week-end prochain, ça va être quoi le choc en Ligue 2? C'est dur de dire, quoi, parce que c'est très dur de le dire. Mais en tout cas, c'est très, très excitant, ça, parce que je crois que au-delà même de ces résultats, la politique du Paris FC, à la fois sa politique au niveau des supporters, hein, avec ses places gratuites, quoi, cet accès quasiment gratuit, la politique de recrutement du Paris FC, qui a quand même a fait des grosses opérations quand même cet été, avec Rasso notamment, puis le petit Maxime Lopez, là, l'ancien joueur de l'OM. C'est vraiment une équipe qui était déjà pas mal, qui était déjà bien l'année dernière, hein, qui avait fini par jouer, qui avait fini cinquième, je crois, et battu par Odez en barrage. Donc, je pense que c'est du sérieux, et puis je les vois bien essayer d'aller au bout, ce qui nous amènerait vers quand même un truc.
Ah ouais, ce serait bien.
Alors, à combien peut-être, Philippe, tu vas pouvoir dire l'année. C'était le Matra Racing, c'était en quelle année qu'il y avait deux clubs?
Oula, c'était très, très loin. Ah oui, c'était dans les années 80. Hein. C'était dans les années 80.
Ouais. Ah oui, c'est sûr. Il y a une quarantaine d'années, quoi. Oui, donc, absolument. Donc, revoir deux équipes parisiennes en Ligue 1, ce serait quand même assez exceptionnel, quoi. Donc, en espérant après que les deux clubs arrivent à s'entendre, à se prêter des joueurs et tout, à faire une série de complémentarité entre les deux. Je me rappelle une époque, j'avais Jean-Luc Vasseur, l'entraîneur de Créteil à l'époque, il entraînait Créteil, maintenant là il entraîne Versailles actuellement en Ligue 2, et ils étaient vraiment, il y a eu une saison où ils étaient vraiment très très performants, et ils me disaient que leur projet à Créteil, c'était justement ça, c'est d'arriver en Ligue 1 et d'en profiter pour récupérer sous la forme de prêt et tous ces joueurs qui sont au Paris Saint-Germain et qui peuvent pas avoir, avec cette politique de star, leur place et jouer dans l'équipe 1, donc les récupérer pour les sous forme de prêt, ou voire même si c'est pas sous forme de prêt, hein, si jamais ils veulent pas rester, de les récupérer pour les faire jouer. Donc si ça se passe comme ça, on peut avoir des choses très intéressantes.
Hein. Oui. Alors juste en bas de tableau, hein, toujours 3 qui, on en parlait la semaine dernière, qui se bat pour le maintien avec 4 points, hein, complètement fou.
Ils ont gagné leur premier match.
Ouais. Mais bon, il reste quand même avant-dernier avec Martigues, 4 points. Et puis Rodel, 18e, donc avec 3 points. Mais enfin, c'est loin d'être terminé, naturellement.
Ouais, c'est loin d'être terminé. Mais bon, on trouve quand même. Ce qui est dur à expliquer, c'est 3. Je ne connais pas exactement. Mais sinon, après, on trouve aussi des petits budgets. Hein. Je crois que Martigues a 7 millions de budget. Rodel, c'était 8 l'année dernière. Je ne sais pas combien c'est cette année. Mais c'est des tout petits budgets. Hein. Vous vous rendez compte que vous avez des joueurs. On ne se rend pas compte, mais par exemple, pour expliquer aux gens, leur gardien de but de l'année dernière, ils ont fait une super saison, ils ont perdu en barrage contre Saint-Etienne. C'était un petit jeune qui s'appelait Jaouen, qui a 18 ans, qui était prêté par Reims. Et là, il est toujours prêté par Reims, il est retourné à Reims, il est parti à Reims, mais là, cette année, il a été prêté à Dunkerque.
Ah, d'accord.
Ce qui veut dire que vous prenez un club comme Dunkerque a plus de moyens pour payer le salaire ou un salaire plus intéressant ou des primes ou même après payant, je ne sais pas exactement les. À Rodez, quoi. C'est Dunkerque, quoi. Dunkerque, c'est pas un cador de Ligue 2. Donc c'est pour dire que ces clubs, Martigues, c'est pareil. Là, je lisais une interview sur notre site de Loré, l'entraîneur, qui expliquait ça, qu'ils peuvent pas s'engager, prendre des risques sur même des jeunes joueurs et tout. Et c'est hallucinant. Les joueurs de Rodez l'année dernière sont partis en D2 allemande.
Ouais, c'est ça.
Ils sont partis en D2 allemande, quoi. Donc après, c'est vraiment un problème de moyens. Donc ils vont se battre avec ça. Ce qui est étonnant, c'est un club comme Caen, bon, qui va un petit peu mieux, mais qui a eu du mal au démarrage, qui est toujours, je crois, qui est en milieu de tableau, non ?
C'est ça. Voilà. Ouais. Bon, Stéphane, on va finir Versailles, donc Valenciennes, un partout. Ça, c'était en national. Alors que Paris Atlético, on en parlait avec Kéman Bassouini, donc, s'est imposé à Bourg-en-Bresse 3-0. Pour l'instant, un petit sursaut pour le Paris Atlético, qui est 14e avec 6 points. Hein. Jules Devang, donc, Quevilly-Rouen et Villefranche-en-Beaujolais, 4 points. Alors que Versailles est 12e avec Rouen, 7 points. Et chez les féminines, donc, victoire du Paris FC devant Le Havre, 8-0. Du PSG devant Guingamp, 4-0. Et de Lyon devant Strasbourg, 6-0. À noter la victoire de Saint-Etienne, 1-0, ce qui fait que le PFC, Lyon, le PSG et Saint-Etienne sont en tête avec 6 points. Voilà.
Voilà. Ils se battent sur la différence de but.
Voilà. Merci Stéphane. Rendez-vous la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Hein,
à la semaine prochaine.
Voilà.
Au revoir.
Merci Stéphane, en tout cas. Voilà. Vanessa, donc on va terminer cette émission bien dense. Juste un petit mot, tu voulais me dire quelque chose sur Dupont. On a une minute.
Antoine Dupont, meilleur joueur international lors de la nuit du rugby. Et puis aussi savoir que Peniazi Dakuwaka du Stade français a été élu récompensé pour le plus bel essai de la saison en top 14.
Très bien.
Voilà, et meilleur joueur du rugby 7 aussi pour Antoine Dupont.
Très bien. Eh bien, merci. Rendez-vous la semaine prochaine.
À la semaine prochaine,
c'est un sport qui t'intéressera. On parlera curling.
Ça va être très bien. Hein.
Allez, belle soirée. Merci donc à notre ami Léonard d'avoir été donc aux manettes ce soir. Et puis, on laisse le témoin à toute l'équipe d'Eladji pour Au bout du foot. Belle soirée et rendez-vous la semaine prochaine. Salut.
À demain.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai dit prêt, toi c'est à ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile, quand je sais pas je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit je sais pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans je voulais juste en avoir 7. À 7 ans j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain, le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket, je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros m'a offert les Jordan 8 avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier quand il vient me voir à tous les matchs. Je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, tout, nous, on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste.
Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent je suis tombé amoureux, mais pour une fois c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes, je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans je suis juste un fantôme, du moins c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle, pourtant elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare, je me dis que l'amour c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket, alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle, je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints et je raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme quand je mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
Mon Paris est fait.